Bonsoir et bon début de semaine à tous. Dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, samedi 10 décembre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rassuré la communauté tant nationale qu'internationale de la tenue des élections l'année prochaine dans le respect du délai constitutionnel. D'après le chef de l'État congolais, l'année prochaine sera consacrée essentiellement aux élections générales, selon le chef de l'État, pour consolider la jeune démocratie encore fragile. Le respect de cycles électoraux demeure une exigence. Il est fondamental, a-t-il insisté, de se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans le délai constitutionnel. S'agissant du financement de ce processus, Félix Tshisekedi a confirmé que le gouvernement congolais va financer à 100% le budget du cycle électoral en cours conformément au chronogramme de la CENI, mais que le gouvernement reste ouvert aux partenaires internationaux. Que pensez-vous de la déclaration du chef de l'État au sujet du processus électoral en cours en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais. De ce lundi 12 décembre 2022, participe au débat Jérôme Mbosso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELITE en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Jérôme Mbosso, bonsoir.
Bonsoir Madame Kili, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix, Radio Okapi.
Luc Loutala, il est chargé des communications, de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Simoncel en sigle, Luc Loutala, bonsoir.
Bonsoir Madame, bonsoir. Heureux d'être avec vous, mais je signale que là j'interviens à titre d'expert, hein, parce que la Simoncel en ce moment est déjà déployée. Et donc voilà, merci.
Merci Luc Loutala et Alphonse Maendo, professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1, enseignant à l'Université de Kisangani, UNIKIS. Professeur Alphonse Maendo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les collègues qui participent à ce débat et à tous les auditeurs, merci.
À Kisangani, dans la province de la Tshopo, vous nous suivez sous la 94.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le gouvernement va financer à 100% le budget du cycle électoral en cours. C'est le président de la République qui l'annonce. Félix Tshisekedi ajoute que le gouvernement reste néanmoins ouvert à l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers. Le chef de l'État l'a dit dans son discours sur l'état de la nation prononcé samedi 10 décembre devant les parlementaires réunis en congrès. Il invite par conséquent ceux des Congolais qui remplissent les conditions légales à se faire enrôler massivement dès le 24 décembre 2022. On l'écoute dans ses propos recueillis par Billy Yvon Lutumba.
Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale, avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux, sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des trois aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire. C'est ici le lieu de lancer un appel pressant et patriotique à toutes les filles et à tous les fils de notre pays, répondant aux exigences légales et civiques, de se mobiliser et de se faire enrôler.
Jérôme Bonsoir, je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, mais aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées. À État, le chef de l'État a rassuré la communauté tant nationale qu'internationale de la tenue des élections l'année prochaine dans le respect du délai constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Félix Tshisekedi?
Merci Madame Kélikouté. Nous, après avoir entendu le discours du chef de l'État devant les congrès, les deux chambres réunies, le Sénat et l'Assemblée nationale, et quand il a abordé la question liée aux élections, où dans ses termes il disait qu'il est heureux et confiant pour la tenue des élections, le chef de l'État parlait en tant que porteur politique du poste électoral. Puisque quand il y a des doutes pour dire est-ce que les élections auront lieu ou pas dans le délai constitutionnel, mais on a toujours posé la question, est-ce que le porteur politique est disposé à s'investir pour que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Là, nous venons d'avoir maintenant une garantie, une fois de plus, du chef de l'État, parce qu'il n'a jamais cessé de dire que, de toute façon, les élections vont se tenir dans le délai constitutionnel. Et aujourd'hui, il vient encore de le confirmer en tant que porteur politique, et cela va avoir des répercussions au niveau de porteur technique, qui est la Commission électorale nationale indépendante, et au niveau de porteur social, qui est la population, les partis prenants, d'autres partis prenants au processus électoral, de s'engager dans la tenue des élections. Et un autre aspect important dans son discours, c'est quand le président va dire, nous allons maintenant commencer à respecter les cycles électoraux. Parce que vous vous souviendrez que les élections précédentes, le premier cycle, les trois cycles précédents, 2006, 2011 et 2018, les élections n'étaient pas tenues dans le délai constitutionnel. Il y avait ce qu'on appelait dans le jargon congolais les glissements du délai constitutionnel. Donc, on a organisé les élections qui n'étaient pas classiques, c'était les élections atypiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans le au niveau de planification, au niveau de l'exécution des opérations, au niveau du respect même du timing des élections, on était dans un cadre atypique d'organisation des élections. Et c'est là où la plupart des gens ne parvenaient pas à comprendre comment les Congolais tenaient des élections dans de telles conditions. Parce que c'était des élections atypiques. Et ça nous ramène au respect du cycle. Quand on respecte le cycle, on sait que maintenant, nous allons être un peu civilisés sur le plan organisationnel et planification des élections. En respectant le cycle, à ce moment-là, ça ne poserait plus de problème quant à la planification des élections, avoir les élections à temps et les planifier à temps pour éviter le retard que nous connaissons aujourd'hui avec la Commission électorale nationale indépendante.
Jérôme Bosso, vous estimez donc que cette déclaration du chef de l'État est une garantie que l'année prochaine, on aura des élections, mais il y a quand même certains Congolais qui doutent encore du respect du calendrier électoral publié par la CENI, malgré cette déclaration de Félix Tshisekedi.
Je l'ai dit.
On a eu des dirigeants qui ont promis d'organiser les élections dans le délai. On connaît la suite.
Vous savez, madame, dans le temps, les dirigeants ont fait des déclarations, peut-être des déclarations d'intention, mais ici, il y a une ferme volonté, un engagement politique du chef de l'État qui lui dit, sur la place publique, tout encore, les élections vont se tenir dans le délai constitutionnel. Là, nous devons nous réjouir parce que c'est déjà une garantie. Et quand il y a ceux qui hésitent, oui, ils hésitent bien sûr parce qu'ils se réfèrent aux contraintes liées à l'organisation des élections.
Exactement, les contraintes soulevées par la CENI.
Oui, les cinq contraintes que nous, au niveau de la plateforme Agir pour des élections apaisées, en date du mardi 6 décembre, nous avons fait une étude, une analyse technique de ces cinq contraintes. Et nous sommes arrivés à une conclusion selon laquelle que les cinq contraintes énoncées par la Commission électorale nationale indépendante sont maîtrisables. Maîtrisables pourquoi? Parce que nous avons vu la Commission électorale nationale indépendante.
Même la contrainte sécuritaire.
Bien sûr, parce que nous avons donné un contenu technique planification de contraintes. Nous avons demandé dans une des recommandations, en ce qui concerne la contrainte liée à l'insécurité et au niveau dans les deux provinces et sécurité aussi généralisée intercommunautaire, les conflits intercommunautaires. Et nous avons demandé au gouvernement de la République de recourir au plan de sécurisation du processus électoral. Voir comment ce plan, et ça va être déployé sur terrain, comment contrer, comment anticiper le conflit latent et le conflit déclaré pour que le processus électoral d'identification d'enrôlement puisse avoir lieu, faute de quoi il y aura un déséquilibre au niveau de l'identification d'enrôlement des électeurs, un déséquilibre au niveau de la répartition des sièges, un déséquilibre au niveau de l'électorat. C'est pourquoi nous disons, au niveau technique, la Commission électorale nous rassure aussi, parce que la CENI est en train maintenant de gérer les contraintes qui contenaient au départ, ils étaient au départ 9 dans la feuille de route qu'il a publié à son temps. Il fallait attendre 9 mois pour publier le calendrier parce qu'on ne pouvait pas, la CENI ne pouvait pas publier le calendrier avant que certaines contraintes publiées dans sa feuille de route devraient être partiellement ou totalement maîtrisées. Et la CENI l'a fait. Et ça, là, nous disons aussi, il y a aussi un encouragement du côté du porteur technique du poste de l'État qui est la Commission électorale indépendante. Et maintenant, la question, c'est quoi, madame? Parce que quand on tient les élections dans un pays, il faut se jeter dans ce que nous appelons la géométrie électorale. Ça nous ramène à un triangle électoral qui a trois angles. Deux angles qui sont sur la ligne horizontale. Où vous avez le premier angle, c'est l'angle délai des élections. L'autre angle, c'est la qualité des élections. Et au sommet, c'est l'angle, le coût des élections. Et aujourd'hui, nous allons nous trouver, selon la contrainte de la CENI, qui disent qu'il y a impératif, et la CENI lui dit impératif de temps avec obligation d'utiliser les transports aériens pour la commande, pour l'expédition de matériel. Et si aujourd'hui il y a le temps et voie aérienne, or ça coûte cher, donc il faut avoir un budget additionnel. C'est ce que nous avons dit dans notre étude, dans notre analyse technique. Nous avons demandé au gouvernement de faire un budget au Parlement, d'avoir un budget additionnel qu'on doit donner à la CENI pour faire face à cette nouvelle donne, à cette nouvelle contrainte. Faute de quoi? Parce que le temps qui nous reste, au lieu de commander nos matériels, de le faire venir par voie maritime ou autre voie, ça va nous donner un grand retard. Et le curseur électoral qui se situe sur 2023 va glisser en 2024. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'on fasse un effort important sur cette question. Et l'autre contrainte qui est importante, c'est le décaissement irrégulier de fonds de la DUE, où le gouvernement fait des décaissements irréguliers. C'est pourquoi nous avons demandé, pour mettre fin à cela, que le gouvernement puisse faire un plan de décaissement concerté avec la CENI, à valider par le gouvernement, qu'on puisse doter la CENI avec des moyens trimestriels ou semestriels pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est le rendez-vous électoral 2023, dont le chef de l'État est en train déjà de se jouir et d'être heureux et confiant à ce que les élections vont se tenir dans le délai concernant, pour la première fois du moins, pour ce quatrième cycle qui va faire différence des trois cycles électoraux précédents où nous avons organisé les élections atypiques et non classiques.
Et donc, après examen du calendrier électoral, votre plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées a conclu que ce calendrier est cohérent, tenable et réalisable dans les délais constitutionnels.
Oui, madame, c'est au regard de l'analyse des cinq contraintes. Nous avons vu avec ces contraintes, avec le contenu technique et opérationnel que nous avons donné pour que la CENI puisse introduire les facteurs correctifs dans son plan de planification, nous allons, c'est faisable, et le calendrier comme tel se présente comme un calendrier cohérent, un calendrier réalisable, un calendrier qui va respecter le délai constitutionnel.
Luc Loutal, vous êtes expert sur les questions électorales. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la déclaration du chef de l'État au sujet du processus électoral en cours en RDC?
Ben d'abord, merci beaucoup, madame. Il y a des choses qui paraissent tout à fait claires dans la déclaration du chef de l'État. C'est d'abord sur les principes. Il est clair sur le principe, mais il est flou dans les précisions. Alors, le chef de l'État, dans sa déclaration, il répond à certains principes, parce qu'il faut se rendre compte que le processus électoral actuel, c'est le quatrième processus électoral dans notre pays, et il l'a dit lui-même que c'est un processus qui est placé sur le signe de la consolidation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en des termes très simples pour tout le monde? Ça veut dire que les trois processus électoraux passés ont eu beaucoup d'erratés et que ce processus, en fait, a pour mission de corriger les erreurs des cycles antérieurs passés et ainsi de convaincre tout le monde que la démocratie est une vraie réalité chez nous. Parce que là, il va encore falloir rappeler à tout le monde qu'il ne suffit pas d'avoir les élections pour avoir la démocratie. Et donc, le chef de l'État reconnaît la nécessité de consolider la démocratie. Et très rapidement, il faut se rendre compte, et Jérôme l'a effleuré, que parmi les défis que nous avons récoltés des cycles antérieurs passés, il y avait le défi de la périodicité, régularité, périodicité, ça veut dire la tenue dans les délais constitutionnels. Et sur ce point, le chef de l'État est revenu vraiment sur ça. Alors, il y avait le défi des financements. Il y a toujours eu des problèmes de financement. Il y avait le défi de la transparence, les défis de l'inclusion, les défis du professionnalisme, le défi de l'exhaustivité, ça veut dire épuiser toutes les opérations du cycle électoral. Et là, le calendrier reprend un peu tout ça. Il y avait le défi de participation des parties prenantes. Hein. On sait que les élections sont organisées un peu depuis l'ADEMA Lumalu, qui était assez participatif. On a vu que les autres CENI avaient un peu une tendance à se conduire comme des entreprises. Quoi. Alors le chef de l'État répond et marque une volonté politique en disant, voilà, ça va se tenir dans le délai constitutionnel. Il y a des aspects de légalité. Il dit, on n'aura pas vraiment des glissements. Donc il confirme la régularité dans la périodicité et ça, c'est très bon. Alors, évidemment, il faut souligner ces trois principes clés sur lesquels il est revenu, qui marquent une volonté politique. Mais à mon avis, pour un discours sur la nation, là encore, les conseillers du chef de l'État, hein, comme ils en ont l'habitude souvent, sont allés, je crois, avec ne lui ont pas bien fait comprendre l'importance de la consolidation de la démocratie. Parce que c'est le chef de l'État, c'est le garant de la Constitution, c'est le garant des valeurs républicaines. Et donc, je suis resté un tout petit peu sur ma soif, parce que le chef de l'État a carrément rejoint le langage du calendrier électoral et il a pris avec lui toutes les erreurs qu'on reproche. Qu'est-ce qu'on reproche en fait au calendrier électoral? D'abord, on a salué le fait que le calendrier électoral prévoit, et ça c'est bien, de relever le défi de la périodicité. Ça veut dire vraiment qu'on va tenir les élections en décembre 2023. C'est surtout la présidentielle. Évidemment, le calendrier a pris en compte le défi de l'exhaustivité. Ça veut dire qu'il va falloir vider les arriérés des autres scrutins. Il y a autour des 13 scrutins qui sont prévus, hein, donc jusque 2027. Et ensuite, il relève un peu les défis des financements. Alors, le calendrier de M. Kadima contient, en dehors de ces choses que l'on peut féliciter, qu'il relève le défi de périodicité, le défi de régularité, c'est un calendrier qui a énormément de failles, parce que, de un, pour qu'on juge de la faisabilité, et là, on va un peu démarquer de notre ami Jérôme Bosso, à ce stade, il est très difficile de dire si M. Kadima et la CENI vont réaliser ce calendrier. Je ne parle pas du délai d'enregistrement qui est tenable. Non, ça, on a salué quand même ce délai très court, qui est louable et que s'ils font, ça va tenir dans les 90 jours, on peut y arriver. Mais nous parlons de l'entièreté du calendrier. De un, M. Kadima n'a pas publié le budget. De deux, il n'a pas publié le plan logistique. De trois, et donc on ne sait pas maintenant, sans plan logistique, sans budget, comment est-ce que M. Kadima va en fait, par rapport aux délais qui sont donnés dans le calendrier, arriver à effectivement mettre en œuvre le calendrier. Et il faut souligner que ça, c'est des erreurs très très graves que la CENI commet, dans lesquelles la CENI en marque le chef de l'État maintenant. Ça veut dire que la CENI n'a même pas encore fini son étape de planification. Donc la CENI reste à l'étape de planification. Nous ne voulons pas supposer que la CENI cacherait ces choses-là. Hein. Et donc la CENI s'est mise un peu dans une très très mauvaise posture en publiant ce calendrier 11 mois avant la convocation de l'électorat. Et si l'on analyse le mode de publication de ce calendrier, on va voir qu'il manque de transparence. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas de budget, hein, donc on n'a pas de plan logistique. Et troisièmement, cette façon de faire, nous nous posons la question si elle est professionnelle en elle-même. Bon, on a salué les activités et il faut décrier la façon dont le calendrier a été publié, ça veut dire sans associer les parties prenantes, un peu à la mode cow-boy, quoi, à la mode un peu entreprise.
Alors lorsque vous parlez des parties prenantes, vous faites allusion à qui?
Ben, les parties prenantes au processus électoral, c'est notamment les partis politiques, à la fois de l'opposition, la majorité, la société civile, le Parlement, hein, qui intervient, aussi le gouvernement.
La CENI a pourtant dit qu'elle a associé tout le monde.
Ben, je crois que la CENI peut dire ça à des personnes qui ne comprennent pas ce qu'un cadre de concertation. La CENI, ce qu'elle a fait, moi j'ai participé à ce qu'elle a organisé. Elle invitait les gens, elle faisait des modules sur la légalité, sur si. Elle n'a jamais mis sur la table le calendrier pour dire, écoutez, nous allons sortir le calendrier, voilà le défi, voilà le budget, voilà le plan logistique. Est-ce que vous avez des idées pour qu'on défende? Donc, en réalité, nous ne voulons pas douter de ce que la CENI ne maîtrise pas, ce qu'on appelle quel cadre de concertation, mais la CENI n'a jamais organisé de concertation en elle-même. Hein, donc,
On retient que vous êtes aussi sceptique comme certains Congolais, Luc Lutala.
Je suis objectif finaliste. Je note une chose et je la répète et je vais la répéter. Et je pense que c'est le point de vue de beaucoup d'analystes si on veut être concret. La CENI nous met dans une impossibilité de dire si elle veut réellement réaliser son calendrier. Pour une raison très simple. Il n'y a pas de budget. On ne connaît pas qu'est-ce que ça va coûter. Et ensuite, il n'y a pas de plan logistique. Parce que si la CENI a un budget qu'elle a communiqué au gouvernement, avec le gouvernement, la CENI doit convenir du plan de décaissement. Ça veut dire, le chef de l'État pouvait dire, voilà, il y a autant que le gouvernement va décaisser pour que ça aille, et le plan de décaissement est celui-ci. Et donc, on est dans une situation où la CENI dissimule des outils qui doivent être publics, où la CENI n'a pas signé sa planification, et ça, c'est des problèmes de transparence qui ne réveillent pas la confiance des parties prenantes dans cette CENI, et il faut souligner que la CENI souffre beaucoup aussi de cette question de manque de confiance des parties prenantes.
Professeur Alphonse Maïndo, professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris et enseignant à l'Université de Kisangani. Votre lecture des propos ou de la déclaration du chef de l'État au sujet du processus électoral en cours.
Merci beaucoup, madame. Je crois qu'il y a deux éléments positifs à souligner dans ce discours. D'abord, le fait que il y a une planification qui intègre des élections locales pour la première fois depuis 2006. Donc c'est une volonté, ou plus en tout cas affichée, de renforcer la démocratie à l'échelle locale pour qu'on ait des dirigeants qui sont élus et choisis par les citoyens. Alors, le deuxième élément positif qu'il faut souligner dans ce qui a été dit, c'est l'extension de la diaspora, disons à la diaspora de cette élection, pour la première fois aussi que l'on puisse associer la diaspora. Donc on connaît le rôle dans le développement de ces pays. On sait aujourd'hui que la diaspora congolaise rapporte beaucoup plus, ça varie selon les études. Il y a des études qui disent que ça rapporte 3, 4 fois, 5 fois même, de tout ce que, plus que toute l'aide internationale au développement qu'on donne au pays. Donc il était nécessaire de pouvoir associer ces gens qui contribuent largement donc au pays à l'appui des décisions dans l'élection des dirigeants. Alors, mais ceci dit, il y a quand même un certain nombre de préoccupations qui méritent d'être soulignées. Certains de mes prédécesseurs l'ont souligné, en particulier Monsieur Lucha. Donc, le premier, c'est le défi d'ordre logistique. Vous, lorsqu'on fait ces calendriers, on publie ces calendriers, on dit qu'il y a, on va faire ci, on va faire ça, mais on voit que ça, c'est à 11 mois et on n'a pas encore tous les matériels, on ne sait pas. Donc, il y a là un sérieux problème. Comment on va faire? Et connaissant tous les défis logistiques que nous avons dans ces pays, et les routes n'existaient pas, et l'électricité n'existait pas, etc. Donc comment on va résoudre ces problèmes-là? Il y a aussi l'insécurité qui se pose. Comment on va faire tout pour que les gens puissent aller se faire enrôler? Il y a des saisons, par exemple, on peut avoir la saison des pluies, il y a des moments où ça va, il pleut, donc on peut même pas se déplacer, on peut rien faire. Donc ça n'a pas pris en compte. Pour moi, ces calendriers ne répond pas aux défis logistiques. Donc c'est irréaliste, j'allais dire. Et c'est défi sécuritaire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à sécuriser le Nord Kivu, l'Ituri, et il y a même des zones qui étaient jusque-là apaisées, tranquilles, qui sont affectées. C'est comme le Kwamutu dans le Bandundu et tout ça. Donc on voit que l'insécurité est en train de s'étendre. Comment on ne nous dit pas comment on va adresser ou comment on a adressé? Est-ce qu'on sera à mesure de finir tout ça dans les délais? Donc, il y a là un problème. Si on ajoute à ça les défis d'autres financiers, puisque nous ne savons pas combien d'argent ça va coûter, est-ce que l'État congolais a déjà mis à disposition quelle somme? Il manque combien? Où est-ce qu'on va trouver ça? On ne sait pas. C'est l'opacité totale. Donc, si on prend tout l'ensemble de ces paramètres, j'ai presque envie de dire que, en réalité, ce qu'on a fait, c'est plutôt une communication politique qui est juste destinée à la consommation politique et pour les opinions publiques, parce qu'il y a des pressions pour dire qu'il faut respecter les délais, et donc on fait ça. Et quand on se souvient que nous sommes habitués dans ces pays avec des promesses non tenues, et beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, et donc là, c'est encore une promesse de plus, à mon avis, qui ne sera pas tenue compte de tous ces défis que je viens d'évoquer ici.
Mais professeur oui. Alphonse Maïndo, on a suivi Jérôme Monceau, qui est président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, qui estime que la déclaration du chef de l'État est une garantie que le délai constitutionnel sera respecté.
Bon, écoutez, combien de promesses le chef de l'État a-t-il faites depuis qu'il est là aux affaires? Et on peut même voir, il y a eu les accords de Genève, les accords de Nairobi, etc., etc. Il y a plein d'accords qui n'ont pas été respectés, y compris avec des partenaires plus importants. Donc, ce n'est pas aujourd'hui pour les élections qu'on tiendra.
Mais on sent quand même une certaine détermination de sa part. Il répète tout le temps qu'il veut que les élections soient organisées dans le délai.
Alors, bien sûr, s'il veut organiser les élections comme il l'a déclaré, mais c'est fort possible, mais ce sera alors des élections qui seront les plus chaotiques que le pays n'ait jamais connues. Parce que qu'est-ce qu'on voit en l'occurrence en matière de préparation de ces élections? On voit que les institutions qui sont chargées justement de préparer les élections et celles qui sont chargées de valider les résultats, notamment la Cour constitutionnelle et puis la CENI qui prépare, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une composition de ces institutions qui a une forte concentration de ressortissants d'un même espace géographique et culturel, qui est celui du président de la République. Donc il y a là, si vous voulez, un élément qui peut inquiéter, qui peut faire douter de la partialité, de l'impartialité plutôt de ces institutions-là. Il faut corriger toutes ces choses-là. Ensuite, quand on regarde aussi ce qu'on nous a présenté par la CENI, à savoir les centres de d'inscription, on voit que l'espace kassaï comprend 25%, si vous voulez, de centres d'inscription, ce qui est une explosion exponentielle, qui est multiplication par 6 par rapport aux élections précédentes. Donc ça signifie qu'il y a une préparation, si vous voulez, d'une fraude en faveur du président actuel, parce que l'espace kassaïen, c'est son espace. Et on regarde, on voit aussi les espaces qui ont connu aussi une forte augmentation du nombre de centres d'inscription. C'est en ordre d'importance, c'est le Grand Équateur. On voit là l'allié du président avec 15,2%. Et ensuite les Bandundu, on voit aussi l'autre allié du président, M. Mbosso, avec 14,1%. Et Kinshasa, voyez-vous, qui se retrouve uniquement avec 6% des centres d'inscription. Et on regarde les Katanga, qui a été drastiquement réduit aussi, les Maniema et aussi l'espace oriental, plus ou moins là on a gardé. Donc on voit bien qu'il y a là, s'il y a une volonté de faire des élections, mais en fait c'est pour organiser une vaste tricherie, donc qui permettrait de faire ça. À mon avis, on est donc dans deux options ici qu'on va avoir. Soit ce sera les reports, soit ça sera donc, si vous voulez, des élections les plus chaotiques quand on voit ce qui se passe.
Les auditeurs sont nombreux à appeler sur notre standard. On va prendre quelques réactions. On va prendre cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Ça sera pour vous, Jérôme Bosso.
Patient Biamungurukuba depuis la ville-province de Kinshasa. Je me demande pourquoi le président de la République se presse à rassurer sur l'organisation des élections dans les délais constitutionnels au moment où la CENI a déjà publié un calendrier mettant fin à cette suspicion. En disant par exemple que le gouvernement va financer à 100% le budget du cycle électoral, mais reste ouvert aux partenaires internationaux, n'est-ce pas seulement une contradiction, mais aussi un doute quant à l'effectivité de ce processus électoral malgré le calendrier publié à beaucoup d'assermoiements. Je ne serais pas surpris que le président vienne nous dire prochainement que les gens ne se sont pas mobilisés et que les partenaires ont croisé les bras si ces élections ne s'organisent pas dans les délais comme ça s'est fait entendre entre ses paroles, de la même manière qu'il accuse les Rwanda et la communauté internationale sur la question qui relève de la souveraineté nationale.
Jérôme Bosso, commentaire.
Oui, merci cher ami Patient. Du moins nous reconnaissons c'est qu'il y a une grande innovation, pas innovation, mais le président de la République en disant qu'il va financer les élections jusqu'à cette étape sont financées à 100% par le gouvernement de la République. C'est une fierté. Nous ne cessons de le répéter. Étant donné que les élections relèvent de la souveraineté d'un État. Moi, j'ai eu la chance de parcourir la plupart des pays africains, asiatiques, américains et autres où les élections se tiennent. On ne recourt jamais au financement extérieur. On ne peut pas, ça ne peut pas. Mais du moins, nous qui sommes dans le pays d'Afrique subsaharienne, étant donné qu'une des résolutions du Conseil de sécurité stipule que tout pays qui s'amorce dans le poursuite d'organisation des élections, et s'il en a besoin, la communauté internationale interviendrait pour lui apporter une assistance technique, tant financière, technique et humaine. Et c'est pourquoi nous disons ici, les élections précédentes de 2018, c'est le pays, le gouvernement qui l'avait financé. Contrairement au premier cycle électoral où la communauté internationale avait financé de plus de 90%. Donc nous devons quand même nous réjouir et soutenir le président, soutenir le gouvernement de la République, que cette fois-ci, nous pouvons organiser les élections nous-mêmes avec notre financement, sans pour autant recourir au financement extérieur. Parce que le financement extérieur intervient à quel moment? Quand cet argent qui vient de la communauté internationale n'est pas géré par la Commission électorale nationale indépendante. Elle est gérée par les organisations de la société civile, par les structures. On envoie cet argent et les structures vont accompagner le processus électoral. Et c'est pourquoi nous disons cette fois-ci, ça pourrait faire la part des choses. Et vous parlez aussi de partenaires extérieurs. Il peut donner tout comme il ne peut pas donner. Certains pays, moi j'ai été en 1996 aux élections dans la Fédération de Russie. La Fédération de Russie avait interdit et aux partis politiques et aux organisations de la société civile de recourir au financement extérieur pour les élections dans le pays. Ça c'est un pas, vraiment une volonté encouragée. Mais ce qui nous réjouit ici, c'est de voir le chef de l'État, je le répète, lui en matière d'organisation des élections, c'est un porteur politique. Nous avons toujours des clients qu'il n'y a pas, est-ce que les élections auront lieu ou pas, parce qu'il y a déficit de volonté politique. Mais comme la volonté politique est publiquement manifestée par le chef de l'État, nous devons soutenir. Mais une fois, quand on a d'inquiétude, est-ce que les élections, ça sera bonne, chaotique, non. Il y a ce que nous appelons l'appropriation des élections. Si nous, population, nous allons nous approprier de ces élections et que les résultats qui vont sortir puissent être les résultats que la population ou bien les électeurs ont exprimé à travers les urnes, nous allons changer les choses. Donc on ne peut pas, rien n'est perdu, nous pensons que les choses vont évoluer. Et quant au budget et planification, il y a ce qu'on appelle, madame, dans l'organisation des élections, le chemin critique des élections. Ici, la Commission électorale nationale indépendante a recouru au chemin critique des élections qui est établi par le retard, 28 mois de retard dans la planification. Donc, c'est pourquoi vous voyez la CENI a mis l'opération de identification enrôlement dans R opération 1, 2, 3, 30 jours. 30 jours, c'est qu'il va innover. Nous avons dans notre étude technique, nous avons demandé à la CENI que c'est une durée trop courte. Qui, si vous ne maintenez pas ça, vous n'encadrez pas ça, ça va pousser à un glissement. Et c'est pourquoi nous avons demandé à la CENI de multiplier les machines, les kits électoraux, de recourir à une technologie électorale de dernière génération. Avec cette technologie, on peut faire l'identification, l'enrôlement qui nous ont coûté lors des élections précédentes. Qu'est-ce que nous avons connu? En 2006, nous avons mis 15 mois pour enrôler 25 millions d'électeurs. En 2011, nous avons mis 13 mois pour enrôler 32 millions d'électeurs. En 2018, nous avons mis 18 mois pour enrôler 40 millions d'électeurs. Et en 2023, nous avons mis 3 mois pour enrôler 50 millions de personnes. C'est là où nous allons recourir à la technologie électorale de dernière génération.
Luc Loutala, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de d'Ariwara, dans la province de l'Ituri.
Ce sont Benjamin, depuis Ariwara, en territoire d'Aru. Nous accueillons avec joie cette nouvelle concernant la tenue des élections en RDC. Du moins, nous regrettons une chose. Certaines régions sont en insécurité. Est-ce que ces provinces où opèrent les groupes armés ne seront-elles pas privées des élections comme c'était le cas en 2018? Quelles sont les nouvelles stratégies mises en place pour que tout se passe en sécurité?
Vous n'êtes peut-être pas le gouvernement pour répondre à la dernière question sur les nouvelles stratégies mises en place pour que tout se passe en toute sécurité. Mais par rapport à sa première préoccupation, il y a des régions, des provinces où opèrent des groupes armés. Est-ce que la crainte, c'est de voir ces provinces être privées des élections comme c'était le cas en 2018?
Oui, mais l'inquiétude de l'auditeur de l'IPRI est très fondée. Je pense que... Le professeur y est revenu. Hein. La zone d'insécurité en 2018 se limitait à Beni, Butembo et puis à Yumbi. Et maintenant, nous avons une zone d'insécurité qui prend tout le Rutshuru, qui prend l'Ituri et qui s'étend jusqu'au sud comme jusqu'à la porte de Kinshasa. Et moi, je pense que le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devait rassurer de manière assez concrète, parce que il restait 11 mois et la situation de sécurité ne semble pas évoluer. C'est un des défis. Bon, mais il faut croire. Et je pense que en ce moment précis, ce qu'il faut dire, c'est que la tenue des élections reste possible. C'est une hypothèse très possible. Et il faut voir que la CENI, dans sa planification, et je pense que ce calendrier, quelles que soient les intersections, il faut soutenir qu'il soit réalisé, hein, et il faut faire que la CENI le réalise, même si, à tout égard, il va nous conduire à des élections un peu suffisamment chaotiques. Mais il y a, la sécurité rentre effectivement dans les contraintes de la CENI, et si la CENI a placé cette question dans ses contraintes, ça veut dire c'est une question sur laquelle la CENI attire de manière particulière l'attention du gouvernement. Et moi, je pense que là encore, c'est un peu raté dans le discours du chef de l'État, parce que sur la question de sécurité, il devait suffisamment rassurer, et je ne pense pas avoir compris cela, quoi.
Merci, Luc Loutala. Professeur Alphonse Maïndo, on va se rendre à Goma, au Nord Kivu, pour écouter ce dernier auditeur.
Docteur Michael Bolingo Sebe Simarugo, à partir de la ville de Goma. Personnellement, je salue le discours du père de la nation. Néanmoins, il a signalé que la CENI a énuméré une série de contraintes, cas de la récente lettre de son rapporteur, qui émet aussi des doutes, comme la guerre à deux. Vu que les rebelles du M23 et d'autres groupes armés n'ont pas obéi à la cessation des hostilités et les retraits, j'aimerais que l'invité puisse nous expliquer par rapport à ça. Car nous avons peur que ce processus peut entraver le processus électoral. Les moyens financiers et la résurgence de la COVID-19 font défaut aussi. J'aimerais savoir qu'en pense le gouvernement pour surmonter ces défis. Par la même occasion, je voulais aussi savoir à quand la fin de l'état de siège dans les provinces en guerre. Mais aussi, si celle-ci persiste, si la guerre persiste, j'aimerais savoir si réellement il n'y aura plus élection dans cette partie de la RDC. Je dis et je vous remercie.
Professeur, vous allez constater avec moi que c'est des questions vraiment adressées au gouvernement, mais on sent quand même ce doute, hein, chez certains Congolais quant au respect vraiment du délai constitutionnel, quant au respect de l'organisation des élections le 20 décembre 2023.
Oui, évidemment, c'est les. Quand j'écoutais l'auditeur, je me disais, ben voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est rationnel. Parce que quand on est rationnel, on voit bien qu'il y a énormément d'écueils, énormément de défis à relever pour avoir des élections dans 11 mois. Ce qui semble véritablement disons si vous voulez, une difficulté presque insurmontable. Parce que rien qu'à prendre les défis d'ordre sécuritaire, comment peut-on nous assurer qu'on va arriver à neutraliser tous les groupes armés qui se sont étendus et qui continuent à gagner du terrain? Comment on peut le faire? On n'a pas pu réussir depuis plus d'une année maintenant qu'il y a état de siège. Mais qu'est-ce qui nous garantit que dans 11 mois on va finaliser, on va sécuriser tout ça? Donc il y a là évidemment des doutes fondés, légitimes, par rapport à tout ça. Et seul Dieu peut nous répondre par rapport à ces questions-là. Je suis en train de penser plutôt qu'il y a une espèce de... On pourrait avoir une espèce d'instrumentalisation de ce conflit, hein, de cette insécurité pour trouver un prétexte pour retarder ou reporter les élections. Ou alors pour faire encore une espèce de coup de force comme on a eu en 2018, ben, on va couper une partie de l'électorat en disant voilà, là-bas c'est trop insécure, on ne peut pas organiser les élections là-bas, donc il n'y aura qu'une partie du Congo qui va voter pour 2023. Tout ça, c'est possible. Mais quand on regarde aussi même les défis d'ordre logistique, je reviens encore sur ça, quand on dit qu'on va faire l'enrôlement un mois dans chaque zone et tout ça, mais comment peut-on faire ça concrètement? Est-ce qu'on a imaginé combien de personnes un informaticien va, si vous voulez, enregistrer en une heure? Voyez-vous? Mais si on fait simplement ce calcul-là, et qu'on sait qu'il y a des informaticiens qui n'ont pas de capacité de saisir rapidement, donc on voit bien que c'est même simplement le fait d'enrôler, c'est impossible. Dans les processus précédents, on a pris plusieurs mois pour faire ce travail d'enrôlement. Pour cause, il y avait un problème logistique pour l'enregistrement. Les gens prennent plus de temps, on passe beaucoup de temps devant la machine. Donc les machines ne vont pas faire le travail à la place des humains. Donc il y a là, si vous voulez, des sérieux problèmes qui nous conduit à ce que je disais tantôt, et je suis ravi que ces auditeurs puissent nous rappeler à nos consciences pour dire on est face à des défis énormes. Soit on va aller vers des élections les plus chaotiques et qui vont créer encore une insécurité plus grande et des troubles et des mécontentements et des soulèvements, soit on va reporter pour dire on crée les conditions favorables pour avoir des élections qui soient transparentes et inclusives et apaisées.
Alors, professeur Alphonse Mahindo, ça sera aussi votre conclusion. Face à tout ce défi, que faut-il faire ? Reporter les élections ou les organiser avec risque qu'elles soient chaotiques, ces élections ?
Bon, à mon avis, si l'on veut véritablement organiser des élections qui puissent créer des conditions de légitimité et d'apaisement de l'espace politique, il faut qu'on prenne le courage de s'asseoir et de convoquer les parties prenantes. Et les revendications qui ont été formulées par les uns et les autres, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la société civile, qu'on puisse mettre ça sur tout sous la table et qu'on apaise ces points-là. Et qu'on décide ensemble de faire un calendrier consensuel et que l'on puisse regarder quels sont les moyens qui sont là et comment on peut mobiliser d'autres moyens à l'étranger par les partenaires pour pouvoir faire ensemble. Donc il faut vraiment une rencontre multipartite qui permettent de baliser et de créer les conditions favorables.
Cela risquerait, professeur, de ne pas respecter finalement le délai constitutionnel.
Bon, madame, je me demande, est-ce qu'il faut aller droit vers les murs pour respecter le calendrier ou il faut faire les élections, ça a quel objectif ? Les élections ont un objectif, c'est de créer, de mettre en place des institutions et des animateurs légitimes, de créer la paix sociale. Si elles doivent encore créer des troubles sociaux et rompre les équilibres sociaux et détruire la paix sociale, elles ne valent pas la peine d'être organisées.
Merci, professeur Alphonse Mahindo. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne-Paris et enseignant à l'Université de Kisangani. Luc Loutala, chargé, plutôt expert sur les questions électorales. Face à tous ces défis, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous?
Il faut se rendre compte que le processus électoral est dans un dilemme que nous n'avons jamais connu avant. Et face à ces défis, on est véritablement mal à l'aise. On est véritablement mal à l'aise. Parce que le processus tel qu'il est en train d'aller, si la CENI ne prend pas en compte les recommandations qui lui sont faites, et j'ai vu déjà qu'il y a des missions d'observation telles que la CIMOSEN, qui se mettent à l'œuvre pour faire des recommandations, si la CENI ne les prend pas en compte en termes d'inclusion, de participation, de fonctionnement correct de concertation et même de professionnalisme, on va aller vers les élections chaotiques. Il n'y a rien à faire là-dessus. Et si la CENI reste dans le manque de transparence tel que maintenant, ça veut dire elle n'arrive pas à finir sa planification, elle n'a pas de budget, elle n'a pas de plan logistique, c'est-à-dire le basique de toute organisation de gestion des élections. Si la CENI n'y arrive pas, on ira vers des élections chaotiques. Il faut malheureusement constater qu'on est engagé sur un processus très fragile, sur lequel on a du mal à trouver exactement ce qu'il faut faire, mais la responsabilité de la CENI sera suffisamment grande pour l'avenir de ce qui va arriver.
Merci Luc Loutala, Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, et coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. On tend vers des élections chaotiques. Vous êtes d'accord?
Nous ne devons pas être pessimistes pour dire on tend vers des élections chaotiques, parce que quand on aura des élections, pour avoir la qualité des élections, comme je l'ai dit au départ, en respectant le délai et les coûts des élections. C'est là où j'ai dit au président de la République, nous sommes d'accord de son souci de respecter cette fois-ci le cycle électoral, de financer les élections à 100%. Et c'est là où nous demandons, c'est la Commission électorale nationale indépendante, de maîtriser les 5 contraintes pour que les élections aient lieu dans le délai constitutionnel et s'en passer, de faire un plan opérationnel et prévisionnel des opérations. Et à l'Assemblée nationale, de procéder à l'adoption. Si une fois la révision du fichier électoral est déjà terminée, une fois qu'on met fin au retard de décaissement de fonds,
fonds par le gouvernement et Dassine doit se doter d'un son budget additionnel pour les transports aériens et présenter, comme les amis le disent, un budget réaliste lié à cela et que la CENI puisse recourir au professionnalisme pour l'usage de machines à vote, des kits électoraux qu'on appelle dispositif électronique de vote, communément appelé machine à voter rénovée, et que le gouvernement puisse respecter le plan de décaissement de fonds régulier convenu avec la CENI, que le plan de sécurisation du procès électoral intégré puisse être démise afin de sécuriser les zones en conflit armé et là où il y a des tensions communautaires.
Merci Jérôme Bonso, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Guimaté, Donna Madimba qui ont réalisé ce magazine. La mise en onde était assurée par Hippolyte Kiapanga. Présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.